Armand Sylvestre, conte audacieux. Conte marseillais. Les melons ont fait, depuis quelques jours déjà, leur apparition aux devantures des coûteux marchands de comestibles. Et bientôt les verrons-nous rouler dans les charrettes à bras, mêlant leurs arômes à celui des roses plus rares déjà, dans ce cahotement de potagers et de jardins ambulants que promènent devant eux un tas de pauvres diables sur le pavé de Paris. J'ai pour le melon une sympathie dont je ne rougis pas. Je l'aime pour son goût, qui est délicat, et aussi pour sa forme qui me rappelle l'immortel objet de mes adorations, ce temps glorieux derrière féminin, auprès de quoi tout est vanité dans ce monde. J'en ai vu qui faisaient illusion, et l'eau m'en vient encore à la bouche. Il y a néanmoins entre eux cette différence que beaucoup de femmes portent là tout leur esprit, et que le melon passe pour en être absolument dénué. Aussi n'est-ce qu'une simple analogie que j'ai signalée en passant. Au plus admirable cantalou, je préférerais toujours un séant, savoureux comme j'en sais, sous des cloches que les lingères appellent jupons, et qui malheureusement ne sont pas de verre. Et maintenant vous savez pourquoi je mets cette véridique histoire, sous le patronage de la plus aimable des cucurbitacées, dans le seul but de saluer sa venue parmi nous. À Marseille, où l'on s'y connaît, les plus estimés sont ceux de Cavaillon, dont la culture se fait sur une grande échelle, pour employer une des images les plus impropres qui se puissent rêver. C'est merveille d'en voir arriver de belles charrettes, conduites par des gars aux cheveux noirs, de sang bien latin et de patois bien frottés d'ail. Ceux-ci les amènent chez les fruitiers en gros, qui les débitent à leur tour, aux petits marchands établis dans les kiosques. Tout cela se fait gaiement, comme toute chose dans le pays du soleil, avec de grasses plaisanteries, sous le sourire mouillé d'huile d'olive des belles filles aux lèvres luisantes, aux yeux sombres qu'éclairent une seule étincelle, aux petites mains brunes et adroites, aux reins bien cambrés, provocantes et railleuses. Telle était, entre autres, Florence Guilledoux, la servante du Benoît Marcellus Vantesque, un des plus copieux fabricants de produits frelatés qu'on puisse citer aux environs de la Canebière, et qui, dans la saison, ajoutait le commerce des fruits à tous ceux qu'il exerçait durant le reste de l'année. Or, maître Marcellus Vantesque, un petit homme gros et coléreux, tempêtait violemment devant sa boutique, gesticulant comme un diable à qui on aurait fait prendre un lavement d'eau bénite. Il sacrait comme un paon, et il y avait franchement de quoi. N'attendait-il pas depuis le matin une fourniture considérable de melons de Cavaillon dont il avait manqué la vente toute la journée? En vérité, les paysans d'aujourd'hui ne savaient plus le respect dû aux citadins. Le temps était meilleur, trône de l'air, où ces grossières gens étaient battus et branchés à la moindre incartade. On verrait bien tout à l'heure comment il traiterait le drôle dont la négligence lui coûtait si cher. Et il vous bousculait Florence, qui n'en pouvait, mais il faisait un vacarme dont la rue tout entière était assourdie. Tout à coup, un bruit de chariot au coin de la rue. C'est là la cargaison attendue qui arrive enfin. Une imposante pyramide de melons branlants, quelque chose de pareil à un immense yeux de boule. À la tête du cheval, un garçon de belle mine, mais tout trempé de sueur, marchant tête basse. C'est lui qui est cause du retard, ayant flâné en chemin, et s'y étant même arrêté dans un blé épais avec une passante de son goût. Car j'en sais qui aime le frisson de ces rideaux d'or autour de leur tête, et en mêle volontiers la musique à celle des baisers. « Attends un peu, » fait Marcellus furieux, tandis que l'attelage s'approche. Après avoir égrené un chapelet d'injures sur la tête du malheureux, le vindicatif fruitier conclut en ces termes. « Je te défends, drôle, de décharger ta voiture avant demain matin. Tu coucheras où tu voudras. Et ton maître, en ne te voyant revenir qu'un jour après celui où il t'attend, apprendra ta conduite, et c'est avec ton propre fouet qu'il te corrigera. » Aristide, tout à fait inquiet, demanda sa grâce. Car ainsi se nommait, comme l'homme le plus juste de l'Antiquité, ce jeune chartier. Mais M. Vantesque fut inflexible. la belle étoile était la seule enseigne du gîte qui convainc à un pareil vaurien. Aristide était absolument navré de cette perspective. Il l'eût été moins certainement s'il avait surpris le regard bienveillant et significatif de Florence, qui, en suivant ce débat d'un air indifférent, ne le quittait cependant pas des yeux. Dans ce regard, il eut la pitié d'une bonne fille, qui, pour rien au monde, n'aurait souffert qu'un beau garçon passât toute une nuit sans autre lit que le pavé. Elle avait mieux à lui offrir assurément, et il avait tort de se tant affliger d'une aventure qui allait tourner pour lui à un avantage inattendu. Elle laissa bravement passer l'orage, et M. Vantesque rentrait majestueusement chez lui, en donnant l'ordre qu'on fermât ouïe et volet de la maison. L'honnête servante obéit, mais non sans avoir eu la précaution de faire entrer sournoisement Aristide devant elle, en lui posant le doigt sur la bouche, pour être sûre qu'il ne pourrait faire quelque cri de surprise intempestif. Jamais bergerie ne s'était plus volontiers ouverte à un loup. Et c'est dans sa propre chambre qu'elle conduisit le coupable, pour une expiation que vous avez devinée déjà, et qui n'est pas pour faire peur à des gens de bien comme nous. Car il n'est pas de crime que je ne sois personnellement prêt à commettre pour braver un tel châtiment. Ô belle guillotine d'amour, qu'ont chansonné les poètes grivois du siècle dernier. Heureux qui monte tes marches de marbre rose, comme les escaliers du Trianon. Merveilleuse invention d'un dieu philanthrope, instrument du plus exquis des supplices. Comme tu me fais concevoir la soif du martyr. Et je n'ai pas d'horreur non plus pour la pendaison à un coup de neige vivante, avec un ciel étoilé au-dessus de ce mont faucon délicieux. Mais pour boire, même à la coupe du martyr, faut-il encore avoir soif. Notre excellent Aristide, que vous aimez déjà comme un frère, s'était, comme je l'ai insinué avec ma délicatesse habituelle, désaltéré dans la journée. Vous savez, à cette belle coupe d'or que lui avait tendue le champ de blé. De plus, le souci de son incartade et des reproches que son maître lui ferait le lendemain ne lui mettait pas l'esprit à la bagatelle, comme disaient familièrement nos pères. Me fais-je suffisamment comprendre? Il était comme un chanteur qui ne se trouve plus de voix au moment où on lui demande une romance, comme un soldat qui marche au feu sans cartouche dans sa giberne, comme un pêcheur distrait qui a oublié ses amorces sur quelques petits rochers de mousse, comme un pauvre diable qui fouille en vain dans sa poche pour y trouver de quoi payer son écho. Et l'hôtelière attendait impatiente. J'entends la douce Florence, qui entendait bien que sa bonne action reçut, dès ce monde-ci, son salaire et en belle monnaie de caresses amoureuses, dont elle était friande à l'excès. Mais en dépit du proverbe, il est pire sourd que celui qui ne veut entendre. C'est celui qui ne peut pas. Louis dont il s'agit n'est pas de celle qu'on recouvre tout de suite après l'avoir perdue. Je ne voudrais insister ni sur la ridicule situation de ce garçon, ni sur le désenchantement de cette aimable fille que le ciel payait si mal de sa bonté. Donnez-moi pareille hospitalité, marquise, dans la même solitude des draps parfumés par un jeune corps comme le vôtre, sous l'enchantement des silences de la nuit, et j'espère me montrer moins ingrat. Aussi suis-je un gentilhomme de lettres, et non point un simple conducteur de chevaux, comme ce malheureux drôle qui avait perdu ses brides en route. Avec le plus pur accent national, une voix claire comme celle des fauvettes babillardes, sur un ton dépité comme celui d'un avocat qui sent sa cause perdue. « Eh, mon bon, qu'y fasse ?» dit-elle à Aristide, qui très simplement répondit. « Tess, vendi dei melos. » Après quoi elle reprit toujours dans le même idiome musical. « Lou sabi. » Puis en bon français. « Mais ça sera pour aujourd'hui ou pour demain ?»« Pour demain, le patron le veut ainsi. » conclut sans se troubler Aristide qui pensait à autre chose. Et sa réponse n'en était pas moins bien sage comme cela. Mais le patron dont il s'agit, c'est l'amour, dont les caprices sont infinis dans cette matière, et qui nous force si souvent à remettre ce qui nous semblerait si doux à l'instant.